VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Congo-Brazzaville, des représentants du pasteur Tatan Toumi sont arrivés dans la capitale pour discuter de la paix avec le gouvernement congolais. C'est un hélicoptère de la police qui a assuré le transport de ces hommes de Mayama à Brazzaville, où ils entendent ouvrir une réunion sur la paix avec les autorités du ministère de l'Intérieur dans un lieu tenu secret. Plus de détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Une dizaine de personnes, dont les représentants du pasteur Ntoumi, sont arrivées jeudi à Brazzaville. Elles sont venues prendre part à des discussions que le gouvernement entend ouvrir avec le seigneur du pasteur Ntoumi au sujet de la paix dans le Poul. Jeudi, un hélicoptère de la police s'est posé en début d'après-midi à Mayama, où ces personnes ont embarqué. C'est Jean-Gustave Tondo, le secrétaire général par intérim du CNR, qui conduit cette délégation. Paul-Marie Mpouélé, un jeune leader politique qui a proposé ses offices pour cette mission de paix, était également présent hier à Mayama. Ce matin s'ouvre à Brazzaville, mais dans un lieu tenu secret, une réunion de prise de contact entre les protagonistes, en entendant que d'autres délégués du pasteur Ntoumi ne rejoignent l'équipe déjà sur place à Brazzaville. Le gouvernement qui accuse le pasteur Ntoumi de terroriste et qui refuse toute idée de dialogue se montre très discret sur ces discussions, pourtant initiées par le ministère de l'Intérieur. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC voisine, le gouvernement a annoncé aujourd'hui le transfert à Kinshasa du chef adjoint des rebelles Hutus rwandais des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Léopold Mudiyambere avait été arrêté il y a quelques jours dans l'est de la RDC. Kinshasa n'a pas précisé le contexte de cette arrestation. Les FDLR, des rebelles Hutus rwandais, dont un certain nombre de chefs et d'anciens combattants sont présents dans l'est de la RDC, et font l'objet de recherches par la justice internationale pour leur rôle présumé dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. RDC toujours présent supposé des mercenaires américains sur le sol congolais. Le G7, une coalition de l'opposition, recommande une enquête neutre, impartiale, avec l'expertise internationale et celle de la MONUSCO pour rétablir la vérité sur ce dossier. Au cours d'un point de presse hier à Kinshasa, cette plateforme qui soutient l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi, qui a été cité dans cette affaire par le ministre de la Justice, exige la liberté de mouvement et la présomption d'innocence pour son candidat à l'élection présidentielle. Écoutons Pierre Lumbi, cadre du G7.
Le G7 exige une enquête neutre et impartiale associant l'expertise internationale et la MONUSCO, en particulier pour établir la vérité sur le prétendu recrutement des mercenaires par M. Moïse Katumbi. Le G7 souligne qu'à ce stade, rien ne peut justifier une garde à vue, ni une résidence surveillée, ni un quelconque mandat d'arrêt, encore moins la détention préventive de M. Moïse Katumbi, un leader politique d'envergure nationale, incontestable et ayant une résidence connue à Lubumbashi. Le G7 réaffirme sa détermination de lutter avec toutes les forces acquises au changement, de l'opposition comme de la société civile, pour le respect de la Constitution et l'alternance démocratique en RDC.
Pierre Lumbi, membre du G7 en RDC. Et toujours concernant ce dossier, l'ambassade des États-Unis en RDC se dit préoccupée par les fausses accusations d'activités de mercenariat dans lesquelles seraient impliqués des citoyens américains. Des précisions avec Eddie Isango.
L'ambassade dit être au courant de la détention le 24 avril d'un citoyen américain qui travaillait au Katanga comme conseiller en sécurité. Mais ce Darrell Lewis n'était pas armé et les allégations selon lesquelles il était impliqué dans des activités mercenaires sont fausses. Nous comprenons qu'il travaille dans une société privée américaine qui fournit des services de consultation à des clients à travers le monde entier, précise l'ambassade américaine. La veille, le ministre congolais de la Justice avait déclaré avoir donné injonction au procureur général de la République d'ouvrir un dossier judiciaire dans l'ex-province du Katanga, affirmant avoir la preuve documentée que plusieurs anciens militaires américains qui se trouvent actuellement au Katanga sont au service de M. Moïse Katumbi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Génocide rwandais de 1994, deux anciens maires rwandais seront jugés à partir de mardi prochain aux assises de Paris en France pour leur participation présumée au génocide. Octavien Nguenzi et Tito Barahira, qui nient tous deux les faits, sont notamment accusés d'avoir directement participé au massacre de centaines de Tutsis réfugiés dans l'église de Kabarondo, une commune de l'est du Rwanda, le 13 avril 1994. Ce procès se tient plus de 2 ans après celui de Pascal Simbikwanga, un ancien capitaine de l'armée rwandaise condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes de génocide. On a toujours la récente célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été une occasion de se pencher sur les réalités financières auxquelles font face les journalistes. Les journalistes sont peu rémunérés, les rédactions manquent de moyens. Le point sur la situation au Rwanda dans ce domaine avec ce reportage de Maurice Magorané à Kigali.
Au Rwanda, la corruption qui touche les journalistes est communément appelée giti, un pot de vin ou une petite enveloppe offerte par l'institution ou l'individu qui organise l'événement. Cette corruption frappe de plein fouet les médias. En effet, selon un rapport de Transparency International Rwanda, sur plus de 500 journalistes, 70% reconnaissent avoir accepté au moins une fois le giti pour réaliser un reportage, ce que confirme l'Institut Panos Grand Lac.
La pratique de giti est ailleurs dans les autres pays, on appelle ça gombo. Il y a ceux qui appellent ça per diem, ainsi de suite. On essaie de chercher les petits mots pour signifier tout simplement la corruption. La corruption pour ne pas l'annoncer comme tel. C'est un phénomène qui existe au Rwanda. Si on voit cette pauvreté des journalistes, les journalistes qui n'ont pas des moyens de survie, ils sont des moments, ils sont dans l'obligation de taire l'information moyennant une petite somme.
Nous sommes à Kigali, dans la maison de la presse, un lieu ouvert aux professionnels des médias. Les journalistes qui côtoient la maison sont du même avis.
En général, nous acceptons cet argent car on ne peut pas faire autrement. Les propriétaires des médias n'ont pas la capacité de donner les frais de transport aux journalistes qu'ils envoient sur le terrain. Dans ce cas, il est normal qu'ils touchent cet argent de transport pour subvenir à leurs besoins.
Les journalistes ne touchent pas leur salaire ou tardent à être rémunérés ou encore ont un salaire insignifiant à cause de la faible capacité de leur employeur. Les journalistes acceptent cet argent en attendant que le salaire arrive, par exemple, jouir de 5000 francs rwandais supplémentaires sur les quelques 100 000 francs rwandais de salaire qu'on touche par mois.
La corruption qui touche les médias a des conséquences sur la ligne éditoriale. Parfois, les journalistes délaissent les vrais sujets qui méritent qu'on s'y intéresse pour couvrir les événements où ils sont sûrs de toucher l'argent. Pour Claude Kabengela, directeur de l'information à Télé 10, une chaîne privée, la corruption n'est pas le seul mal qui touche les médias rwandais. Les annonceurs imposent aussi leurs conditions et font en sorte qu'ils ne seront jamais critiqués.
Nos sponsors nous payent pour couvrir leurs événements. Les compagnies de télécommunications, les sociétés de publicité dépensent des millions en sponsoring. Que voulez-vous qu'on fasse quand une société de publicité injecte 4 ou 5 millions dans votre compagnie? Vous voulez qu'on en dise du mal?
22 ans après le génocide des Tutsis de 1994, les médias rwandais se recherchent toujours. L'intégrité des professionnels des médias est compromise. Leur capacité à façonner l'opinion publique et à informer objectivement les citoyens reste très limitée.
C'était un reportage de Maurice Magorané, notre correspondant à Kigali, au Rwanda. Conflit en Syrie maintenant, de violents combats opposant les troupes du régime du président Bachar al-Assad à la branche syrienne d'Al-Qaïda et ses alliés au sud-ouest de la ville d'Alep ont fait plus de 70 morts en moins de 24 heures. Une trêve temporaire mise en place sous pression des Américains et des Russes, parrains respectivement de l'opposition et du régime en Syrie, était toujours respectée par contre aujourd'hui dans la métropole d'Alep et devrait expirer demain à l'aube. Course à la Maison-Blanche, ici aux États-Unis, empêtré dans une rébellion du camp républicain, le milliardaire Donald Trump s'est rendu hier en terrain conquis en Virginie-Occidentale pour son premier meeting électoral en tant que candidat probable du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Dans une région minière sinistrée, Donald Trump a fait une promesse, des emplois. Il a également attaqué celle qui est désormais son adversaire principal, Hillary Clinton, probable candidate démocrate à la présidentielle de novembre. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.